Ça tourne.
En gros, bah, du coup, nous on travaille sur les costumes et les décors et on voudrait savoir, surtout à propos des décors, parce que c'est la partie majeure. Par exemple, avec Farah, bah, du coup, on a quelques questions.
Allez-y.
Déjà, j'ai une question, c'est est-ce que les décors, c'est vous qui les faites en fonction de ce que vous avez envie ou vous avez des réglementations ou alors c'est pas du tout vous qui les faites?
Alors déjà, c'est pas nous personnellement, il y a une scénographe, en l'espèce Sandrine Lamblin, à qui on passe commande de décor. Donc elle a travaillé en étroite collaboration avec le metteur en scène, qui lui a demandé ce dont il avait besoin. Elle, elle a trouvé les solutions techniques et puis elle a fait des propositions artistiques aussi. Et un décor, évidemment, il doit toujours se conformer malgré tout à une certaine législation. Par exemple, il faut que les choses soient inifugées. Ça ne peut pas prendre feu, sinon ce serait trop dangereux. Donc il y a des règles qu'il faut respecter, des règles de sécurité, mais sinon... Le travail du scénographe ou de la scénographe, c'est d'être le plus libre possible pour répondre aux demandes de la mise en scène.
Et après, parfois, dans des équipes, tu as des gens qui ont des compétences multiples et on aurait pu avoir dans la troupe quelqu'une ou quelqu'un qui sache fabriquer des décors et qui aurait pu se coller à la fabrication.
Ouais, mais toi, Annelle, tu as fabriqué certains éléments. Tu as fabriqué des choses
marionnettes, des trucs à rajouter, des cadres, des voilà. Mais là, en tout cas, en l'occurrence, sur un gros décor, on avait besoin de quelqu'un dont c'est le métier principal.
Est-ce qu'il vous faut des études spéciales ou des bacs, des BTS spéciales et tout?
Quelle étude vous avez fait en gros pour eux?
Alors là, vous allez avoir trois réponses différentes. Moi, j'ai fait plein d'études qui n'avaient rien à voir avec le théâtre. Et ensuite, j'ai fait une école de théâtre en Angleterre qui a duré 3 ans.
Et donc, tu as eu des diplômes?
Oui, je suis diplômée, mais vraiment, je vais employer une expression un peu vulgaire, on n'en a rien à battre du diplôme. C'est vraiment pas ça qui fait le bon comédien ou la bonne comédienne.
Moi, un peu comme Sarah, j'ai eu un diplôme dans une école à l'international. Donc pareil, une école publique, l'équivalent d'un conservatoire en France, voilà, avec un diplôme du coup aussi.
Et moi, je n'ai rien à part mon brevet des collèges. J'ai été dans un lycée autogéré parce que je n'étais pas scolaire et j'ai appris que je pouvais faire mon métier sans avoir besoin du baccalauréat. Donc, j'ai été passer mon bac en dilettante, comme on dit, et j'ai eu des très bonnes notes en théâtre et j'ai pu tout de suite travailler derrière en formation.
Mais pour ce qui est des costumes et du décor, il y a des écoles spécifiques. Dans certaines grandes écoles nationales de théâtre, il va y avoir un département costume, un département scénographie. Donc c'est des gens qui sont formés spécialement à ça. Après, il y a des scénographes qui viennent plus du milieu des arts plastiques, qui auront fait les beaux-arts ou qui auront fait les arts appliqués et puis qui ensuite vont avoir envie de travailler dans le monde du spectacle et se spécialiser là-dedans.
J'ai une question par rapport à la rémunération. Vous êtes rémunéré par rapport au nombre de spectacles que vous faites ou par mois?
Oui, on est rémunéré par... En fait, on a plusieurs employeurs. Donc, on est payé sous forme de cachet. C'est ce qu'on appelle un cachet. C'est un service de 12 heures. C'est-à-dire qu'on est dédié à 12 heures de travail dans la journée. Et selon les gens avec qui on travaille, les cachets sont différents. C'est-à-dire que sur une pièce jeune public, ça peut être 150 euros la journée. Sur un tournage, ça peut être 1200 euros la journée. Donc, en fait, tout dépend de la production, du milieu. Est-ce que c'est télé? Est-ce que c'est cinéma? Est-ce que c'est marionnette? Est-ce que c'est jeune public? Est-ce que c'est tout public? En fait, la grille tarifaire... diffèrent en fonction du projet.
En fait, c'est comme des mini CDD. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est des contrats de 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Tu vois, on n'a pas un contrat qu'on va signer, on va dire, bah voilà, tu vas travailler jusqu'à ce que ça s'arrête. Ça n'existe pas. Nous, on n'a que des contrats qui s'arrêtent, très courts.
Mais c'est très français, parce qu'il y a d'autres pays, par exemple en Allemagne, c'est essentiellement des troupes permanentes, une équipe de comédiens qui ne travaillent que dans un théâtre. Donc eux, ils sont mensualisés, ils sont salariés de ce théâtre-là. Voilà, chaque pays va avoir un système différent.
En fait, une grosse partie de l'Europe, d'ailleurs, parce que toute l'Europe, ce sont un système de troupes permanentes. Il n'y a qu'en France où il y a le système de l'intermittence. Et après, il va y avoir d'autres pays où il n'y aura pas l'intermittence, malheureusement, et où il n'y aura pas de troupes permanentes non plus. Et donc, ils sont sur un freelance et où là, du coup, c'est très précaire. Voilà, et souvent, ils ont des deuxièmes emplois.
Moi, j'ai une dernière question, pour moi en tout cas. Est-ce que, par exemple, c'est vous qui choisissez à peu près genre, les designs des marionnettes et tout, ou qui les créez? Enfin, je ne sais pas comment expliquer.
Alors, pour les yeux de Taki, ça a été pensé par Cédric Revelon, le metteur en scène, en collaboration étroite avec Francesca Testi, qui est la factrice de marionnettes, celle qui a fabriqué toutes les marionnettes de ce spectacle-là. Donc, elle a fait des prototypes, des propositions, et elle voyait avec Cédric si ça convenait, et très vite ils ont trouvé l'univers commun, donc ça a pu se réaliser. Après, sur la prochaine création, par exemple, moi je suis devenue factrice de marionnettes, donc je fabrique d'autres types de marionnettes que celle-ci, beaucoup plus réalistes, avec un autre matériau, et ça c'est pareil, c'est toujours en collaboration avec le metteur en scène pour aller dans le même sens, pour être dans un univers commun et raconter la même chose avec et des marionnettes et une histoire et un univers, pour être sur une même ligne conductrice, quoi.
Mais c'est très rare que les marionnettes préexistent à un spectacle. En général, il y a le projet d'un spectacle et les marionnettes, elles vont être faites pour ce spectacle. Parfois, on réutilise des marionnettes d'un spectacle précédent, mais elles vont toujours être un peu retravaillées, repeintes, les costumes vont changer parce que c'est du sur-mesure, vraiment. Ouais.
En fait, c'est le principe de tous les spectacles vivants, hein. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui se rassemble avec une personne qui a une idée au départ, il rassemble son équipe, et puis après, il y a des essais, mais c'est pareil en danse, en théâtre, et au fur et à mesure, les choses se font, les décors, les costumes, et puis l'histoire aussi. Tout se fait, ça n'existe pas d'avoir, enfin, c'est rare d'avoir tout qui est déjà tout installé tout de suite, tout préfabriqué, on n'achète pas, tu vois, enfin, ça s'appelle de la création, c'est de l'art vivant.
Mais juste, j'ai une dernière, elle a apparu dans ma tête. Est-ce que, par exemple, vous avez des chemins d'interprétation pour les marionnettes, ou c'est vous qui choisissez comment vous les interprétez, enfin, leur caractère?
C'est un peu toujours pareil, c'est-à-dire que t'as, là, en l'occurrence, le metteur en scène a une idée par rapport à un texte, et puis les comédiennes aussi vont avoir une idée par rapport au texte, par rapport au rôle. Et en fait, c'est un échange, c'est-à-dire tu travailles sous forme d'improvisation ou avec un morceau de texte. En général, la personne sur scène va faire une proposition, on appelle ça. Elle va tester un type de caractère, un type de voix. Souvent, c'est quand même prédéterminé, préécrit par le texte. Et la personne en face, là, le metteur en scène, Cédric, va dire « Ah oui, ça, c'est bien, c'est plus vers là » ou au contraire « Ah non, pas du tout. Moi, je la voyais plus comme ça ou plus comme ça. » Et du coup, on va travailler, en fait, mais ça se fait toujours à deux. C'est rare. Alors, il y en a qui le font, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Des metteurs en scène qui disent « je veux que ça et pas autre chose ». En général, tu es obligé de faire à deux.
Et avec l'objet marionnettique, il y a quand même un truc qui prend aussi le pouvoir, c'est la marionnette. C'est-à-dire que selon ce à quoi elle ressemble, on ne peut pas raconter quelque chose à côté, souvent. Donc on s'inspire aussi de ce petit bonhomme. Si c'est des enfants, forcément, on va avoir une voix un peu plus enfant. Enfin voilà, c'est aussi, on a aussi cette marionnette à observer qui peut nous aider à trouver aussi le ton juste et la couleur du personnage.
Bah merci beaucoup.
Merci à vous. C'est bon pour tout le monde ?
Il me reste deux questions. Juste. Tout le monde a-t-il besoin de l'art ?
Waouh ! Ça devient des questions philosophiques, là, les filles. Tout le monde a-t-il besoin de l'art ? Selon moi, oui.
Oui. Alors, moi, je crois que l'art répare. Qui répare ceux qui le font et qui répare ceux qui le regardent. Alors, pas tout, hein, parce qu'on peut regarder un tableau, rester complètement indifférent, on peut lire un livre et trouver ça très, très ennuyeux, on peut aller voir un spectacle et s'endormir ou avoir envie de regarder son téléphone. Mais quand c'est réussi, ça vient nous chercher à un endroit très profond, et ça nous change.
Et puis souvent, l'art, j'ai l'impression que c'est un peu comme un curseur, tu vois, dans un pays. Par exemple, les pays où il y a des régimes totalitaires, eh ben, une des premières choses qui est supprimée, interdite, ça va être l'art sous toutes ses formes, la musique, la danse, le théâtre, le cinéma, peu importe. Et en fait, souvent, on peut voir l'état, on va dire, d'un pays. Est-ce qu'il est malade ou pas, selon l'état, là où en est l'art dans ce pays-là, et la possibilité de s'exprimer.
Mais la question que tu poses est très importante parce que je crois qu'il y a des personnes qui pensent que l'art ne l'aurait pas nécessaire ou que l'art ne l'aurait pas accessible, alors que l'art, c'est vraiment pour tout le monde. Simplement, parfois, il faut être un peu accompagné, parce que ça peut paraître étrange a priori, et on peut se dire « mais j'ai pas tout compris », alors qu'en fait, c'est pas grave. L'art, il s'adresse pas nécessairement au cerveau, il s'adresse au sens aussi, et à nos émotions. Donc en fait, c'est vraiment pour tout le monde devrait y avoir accès, mais parfois, ça prend du temps.
L'art est-il essentiel pour vous et pour quelles raisons ?
On y a répondu, ouais. Là, on a répondu à cette question, c'est la même chose.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Mais de rien, merci.